Il a été maire de Montréal, il a été ministre également dans le gouvernement de Robert Bourassa, Gérald Tremblay, qui publie un livre sur sa vie. Bonjour, M. Tremblay.
Oui, bonjour.
Gérald Tremblay, dites-nous d'abord, parce que faut aller à l'essentiel, on n'a pas beaucoup de temps. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de ne pas aborder dans le livre les circonstances qui ont mené à votre départ de la mairie, toutes les histoires de conflits d'intérêts, puis les histoires de magouilles, puis de corruption, puis tout ça? Pourquoi vous avez décidé de ne pas affronter ça, tu sais, puis de dire voici ce qui s'est passé, puis voici mon explication, comme ça on n'en parlera plus, mais on va pouvoir parler d'autres choses?
Pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il y a encore des causes pendantes au niveau civil et criminel devant les tribunaux, et je ne voudrais pas qu'un de mes commentaires nuisent de façon irrémédiable à qui que ce soit. Première raison. La deuxième, il y a eu une commission, il y a eu 46 millions de dollars investis par le gouvernement du Québec. Il y a eu des autorités compétentes, il y a eu des escouades mises en place. Alors, je souhaite ardemment, comme je l'ai souhaité avant, que ces unités fassent leur travail. Et quant à moi, j'ai tourné la page et j'ai décidé de consacrer mes énergies à l'avenir. C'est ça qui est important. L'avenir, notamment, de la métropole du Québec.
Quand vous dites la commission, vous parlez de la commission Charbonneau.
Exactement.
Bon. Mais pourquoi sortir un livre, d'abord, si c'est pas pour répondre à toutes ces histoires-là? Pourquoi sortir un livre? Est-ce que c'est parce que vous craignez que les gens ne retiennent de vous que votre passage à la mairie et les circonstances difficiles de votre départ?
C'est un ouvrage de référence où, oui, il y a un aspect biographique, mais essentiellement, c'est une démonstration qui est claire, limpide et irréfutable que le statu quo doit changer. Pourquoi? Comment se fait-il qu'encore aujourd'hui, on parle des mêmes problèmes qui existent depuis plusieurs décennies? Fragilité financière de la Ville de Montréal, sous-financement des infrastructures, transport en commun, logement social, habitation, itinérance, pauvreté, et je pourrais vous en citer encore beaucoup. Et quand on regarde au niveau du gouvernement du Québec, comment se fait-il que même si les premiers ministres sont unanimes à demander que les investissements au niveau de la santé soient remis à l'État où ils étaient auparavant, c'est-à-dire à 45 %, mais là, ils en demandent 35 %, c'est à 22 %. Comment se fait-il qu'on ne revoit pas et qu'on ne va pas à la source du problème? Alors, quand je dis une démonstration, la démonstration, ce qu'elle dit, c'est que pendant 154 ans, on a vécu le statu quo. Puis aujourd'hui, je le dis, après mûre réflexion, Si on ne reconnaît pas, notamment les municipalités comme des entités constitutionnelles distinctes, au même titre que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, avec, évidemment, une révision des compétences, qui est responsable de quoi? Évidemment, un partage des revenus fiscaux actuels.
OK, donc c'est un plaidoyer pour donner aux villes plus de pouvoir, plus de revenus, puis une plus grande reconnaissance pour éviter qu'elles dépendent trop des provinces. En résumé, c'est ça.
C'est parce que si on prend une citation du Conference Board, on dit la locomotive économique de la nation, ce sont les villes.
D'accord.
Les maires de Toronto, Gatineau et Edmonton viennent de sortir récemment. Ils disent sans les villes, point de relance économique. Pourquoi c'est important ces deux points-là? Parce que la relance économique va permettre d'améliorer la qualité de vie des citoyens dans leur quotidien. Et je pense que ça, c'est très, très important.
OK, mais là, je veux parler à Gérald Tremblay, l'homme. Là, vous avez résumé votre point de vue, votre position dans le livre, très bien. Moi, je veux parler à Gérald Tremblay, l'homme. Dites-moi comment vous avez vécu cette fin de règne comme maire de Montréal. Comment vous avez fait pour passer au travers? Humainement, ça a dû être l'enfer.
Oui, c'est certain que ça n'a pas été facile. Mais je me suis dit, après mûre réflexion, est-ce que je veux vivre de haine, d'amertume ou de rancœur? J'ai décidé non. Alors, je suis retourné à la maison, j'ai quitté la vie publique et heureusement, j'ai une compagne de vie qui m'accompagne depuis plus de 40 ans. J'ai des enfants, j'ai deux petits-enfants depuis, et en plus, j'ai eu des bons amis. Alors, toutes ces personnes m'ont encouragé. Et je dois juste ajouter une chose. Je dois vous dire qu'il n'y a personne qui m'interpelle sur la rue pour quoi que ce soit. Au contraire, toutes les personnes que je rencontre me disent « M. Tremblay, on vous aime, Monsieur Tremblay, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe, etc. Donc, l'important, là, c'est d'être utile dans la vie. Et je pense que l'ouvrage de référence que vous avez démontre hors de tout doute que c'est plus moi uniquement qui parle. C'est l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Fédération canadienne des municipalités. Tout le monde est unanime. Alors, expliquez-moi comment se fait-il qu'il n'y a pas un changement important.
OK, mais dites-moi, est-ce que vous avez voulu que ce livre-là soit publié pour que les gens comprennent que vous n'avez pas été que la fin du troisième mandat, vous avez fait beaucoup d'autres choses. Et donc, d'une certaine manière, c'est pour faire la démonstration que votre vie politique n'a pas été un échec. Est-ce que c'est pour ça que vous avez publié le livre, pour montrer, regardez, je suis pas un échec, j'ai fait aussi des bonnes choses?
Le livre démontre hors de tout doute, au niveau, par exemple, si on prend mon parcours, au niveau du gouvernement du Québec. Quand il y avait un ralentissement économique, pour ne pas dire une récession, alors on a réussi à mobiliser des intervenants par les grappes industrielles. Ça, c'est important. Il y avait une concertation. Oui. Tout le monde était d'accord. Oui, oui. Alors, aujourd'hui, il faut continuer de se mobiliser. Et dans le livre, c'est vrai qu'on parle des réalisations, mais quand on regarde les réalisations, la question que je me pose, et la question que je me pose encore aujourd'hui, en suivant de façon assidue la politique, oui. Comment ça se fait qu'on revient avec les mêmes dossiers, les mêmes problèmes? Alors, donc, la situation financière de la Ville de Montréal est toujours très précaire. Les investissements dans les infrastructures, on a les mêmes problèmes.
Monsieur Tremblay, si vous me permettez, on a compris ça. Vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, puis j'ai pas beaucoup de temps avec vous. Je veux vraiment... Parce que moi, je vais le dire, OK? Moi, je vais le dire, là. Moi, Gérald Tremblay, quand vous étiez en politique québécoise, quand vous avez été ministre, le ministre qui a rendu populaire le concept de grappe industrielle, c'est-à-dire des entreprises du même secteur, mettons les entreprises de l'aéronautique, qui travaillent ensemble, qui donnent naissance à des institutions d'enseignement pour que Bombardier, puis Pratt & Whitney, puis CAE, puis Héroux DevTech, puis toutes nos belles entreprises aient de la belle main-d'œuvre. C'est ça, les grappes industrielles. Ça a été vous, ça. La qualité totale, l'idée que nos entreprises doivent produire des produits de grande qualité pour qu'on puisse, après ça, les exporter, c'est Gérald Tremblay, le ministre de l'Économie sous Bourassa. Tout ça, là, c'était du bon Gérald Tremblay. Puis moi, je le dis sur les ondes, vous avez fait du très bon Gérald Tremblay dans votre parcours politique. Puis moi, si j'étais à votre place, je craindrais qu'on ne retienne de moi que les controverses. Et si j'étais à votre place, j'aurais peut-être voulu que ce livre-là soit publié pour que les gens se rappellent que vous n'avez pas été que la fin d'un troisième mandat controversé. Vous avez fait aussi beaucoup d'autres choses qui étaient très positives pour la société québécoise. Fait que, il me semble que vous pourriez me le dire ça de même. Ben oui, d'une certaine façon, j'ai pas le goût que les gens pensent que je sois un échec. Je veux qu'ils voient l'ensemble, la totalité de ce que j'ai fait.
J'ai pas ajouté ce que vous avez dit. Je pourrais même en ajouter, par exemple, au niveau du gouvernement du Québec. Ouais. Rappelez-vous, lorsqu'on a fait des conventions collectives de longue durée, alors c'était la première fois que ça a mis à place. Qu'est-ce qu'on a dit? Une hirondelle ne fait pas le printemps.
À Sorel-Tracy. Convention collective de 6 ans pour sauver l'usine là-bas. Malheureusement, elle a fermé finalement, mais elle a duré quand même un certain temps à cause de cette paix syndicale. Oui, c'est ça.
Oui, bon, mais avant, on a réussi. Le message de cette période-là, c'est que quand on a des objectifs communs, puis on a une concertation, on mobilise les intervenants. Alors, à Montréal, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de plan de transport. Là, vous avez un plan de transport. Vous avez les Bixi, notamment. Vous avez un plan métropolitain d'aménagement et de développement parce que Montréal ne peut pas réussir seul. Il faut qu'il réussisse avec la communauté
Alors, votre plus belle, votre plus grande fierté comme maire de Montréal, en terminant, ça a été quoi, là? Parce que je ne vous demanderai pas votre cauchemar. On le connaît, le cauchemar. Mais la plus grande fierté, la plus belle chose que vous avez laissée à Montréal comme ancien maire de Montréal, ça a été quoi?
Il y en a plusieurs. On a la Charte montréalaise des droits et des responsabilités. Redonner aux citoyens un droit de parole. Le quartier des spectacles, le quartier de l'innovation, l'espace pour la vie. C'est dans l'actualité aujourd'hui. Si la biosphère se joint, par exemple, au jardin botanique, au biodôme, à l'insectarium et au planétarium et au centre de la biodiversité pour qu'on puisse rayonner sur la scène internationale, je pense qu'avec la politique culturelle, et je vais terminer sur ça, avec la politique culturelle, on est capable de rayonner davantage sur la scène internationale. Mmh. Et je voudrais juste vous faire un dernier commentaire.
Vraiment, là.
Oui, je le sais. Quand on parle trop longtemps, c'est Churchill qui disait ça, quand on parle trop longtemps du passé, on peut pas assez parler de l'avenir. Moi, ouais. Je veux juste vous dire que quand on a fait les grappes industrielles, je connaissais pas beaucoup de Risque Lucier que vous avez connu, sûrement.
Ouais.
Alors, au Théâtre Saint-Denis, il est parti à l'autre bout de la salle, il est venu me faire la collane.
Ouais.
Il m'a dit, Monsieur le ministre, si on ne donne pas suite à la philosophie et la substance des grappes industrielles, ouais. on aura mérité le triste déclin qui nous sera réservé.
Ouais.
Aujourd'hui, je dis de façon non équivoque,
bon.
Si on ne donne pas suite à l'essence et à l'esprit de la réforme proposée, on aura mérité le triste déclin qui nous sera réservé.
OK. Ben, Gérald Tremblay, je rappelle que le livre s'appelle « L'expérience Tremblay ». Il est signé par Maître Claude Laferrière. Merci pour l'entrevue.
Ça me fait plaisir.
À la prochaine. On s'en va à la pause. Bon, je sais, là, vous m'écrivez là, pour me dire qu'il était pourri, tati, tata, là. Mais vous avez compris pourquoi j'ai fait cette entrevue-là. J'aurais pu décider de ne pas la faire. Là. J'ai décidé de la faire pas pour passer l'éponge sur les controverses puis les histoires de magouilles puis de tout ça. Là. C'est pas pour ça. Là. Je l'ai fait parce que Tremblay, à mon avis, mérite mieux que ce que l'histoire retiendra de lui. Je pense qu'il a fait des grosses erreurs. Je pense que par moments, il regardait ailleurs alors qu'il aurait dû confronter la corruption. Cela étant dit, je pense pas que c'est un homme corrompu. Je pense que c'est un homme qui était animé par de bonnes intentions. Je pense qu'il c'est un homme de service public. Et donc, ça a été ma manière de dire, vous avez fait des erreurs, M. Tremblay, mais vous avez fait du bon également. Puis à un moment donné, si on veut avoir des hommes et des femmes politiques qui s'impliquent en politique, il faut pas les juger juste d'une manière unidimensionnelle. Il faut regarder le portrait dans son ensemble. Puis dans le portrait dans son ensemble, pour ce qui est de Gérald Tremblay, il est plus nuancé que ce qu'on a retenu de lui jusqu'à maintenant dans l'histoire. Voilà. Je m'en vais à pause. Au retour, lève-toi.